au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont déjà nombreuses, je peux vous le dire, au standard et sur nos réseaux sociaux, car nous allons parler du projet de nouvelle constitution en Guinée. L'intégralité du texte a été lue lundi soir à la télévision nationale. Depuis hier, il est disponible en ligne. Au total, 199 articles qui seront soumis à référendum dans un peu moins de 3 mois, le 21 septembre. Alors, parmi les nouveautés, il y a la durée du mandat présidentiel qui passe de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois. Il est prévu la création d'un Sénat, mais aussi d'une Cour spéciale de justice de la République pour juger le président et les membres du gouvernement en cas de haute trahison. Voilà les principaux articles, les principales nouveautés. Ce texte est-il à la hauteur de vos attentes? On a envie de vous entendre, donc continuez à nous rejoindre ici à Paris, 33 9. 693 693 70. Vos analyses, évidemment, nous intéressent. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Banam est avec nous ce matin. Il nous écoute sur YouTube. Bonjour Banam.
Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous.
Et merci de nous contacter de Lomé, au Togo. Vous avez des questions sur la guerre en Ukraine?
Tout à fait, Juan. Les États-Unis ont annoncé la suspension des livraisons d'obus et de missiles anti-aériens en Ukraine. Mm-hmm. Quelles sont les raisons avancées? Quel impact cela pourrait avoir sur les capacités de défense de l'armée ukrainienne?
Bien sûr, bonne question que vous posez. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour.
Spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI, expliquez-nous pourquoi maintenant les États-Unis ont décidé d'arrêter la livraison de certaines armes à l'Ukraine.
Alors, raison invoquée, Juan, c'est l'inquiétude du Pentagone concernant les stocks d'armes américains. Il est vrai que la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, à laquelle les États-Unis ont participé, ont dû vider une partie des arsenaux américain, mais le fait de geler l'aide à l'Ukraine, ça relève et ça n'échappe à personne d'une décision complètement politique. Hein. L'administration Trump ne veut plus s'engager pour Kiev et cette décision, bien sûr, les Ukrainiens, mais aussi les états-majors occidentaux la redoutaient. L'Ukraine aura du mal à combattre l'armée russe sans les munitions américaines, a immédiatement confirmé ce mercredi une source militaire ukrainienne à l'agence France-Presse. De son côté, le Kremlin c'est félicité, ça vous a pas échappé, Juan, hein, en estimant cyniquement que cela rapprochait Moscou et Kiev de la fin du conflit et le risque.
Le porte-parole du Kremlin a dit « Moins il y a d'armes livrées à l'Ukraine, plus proche est la fin de l'opération militaire spéciale.
Voilà, »
Fin de citation.
On ne peut pas faire plus cynique. Le risque, bien sûr, est qu'à la faveur d'une offensive d'été, Juan, les forces russes, profitant de cette faiblesse ukrainienne, tentent de percer le front.
Donc, il y aura forcément un impact sur le terrain. Un impact.
Indéniablement.
Oui. Banam, vous avez une autre question.
Tout à fait. Cette décision marque-t-elle le début d'un désengagement américain plus large vis-à-vis de l'Ukraine?
Alors, jusqu'à présent, Franck Alexandre, malgré les tensions, hein, elles sont réelles, entre Donald Trump et le président Zelensky, l'administration américaine poursuivait l'aide américaine initiée par Joe Biden. Est-ce que désormais, avec cette décision de Donald Trump, il y a un vrai début de désengagement américain?
Alors, jusqu'au mois de juin, on avait en effet les queues de comète des livraisons décidées par l'administration Biden en décembre 24. Dire jusqu'à... Elles avaient été prises, ces décisions, dans les derniers jours du mandat de Joe Biden. Le président américain ne pouvait pas s'y opposer. Voilà, on arrive au terme de ce qui avait été décidé à ce moment-là. Et oui, on a vraiment le sentiment que les Américains... Mais il y a un véritable fou. Le problème, c'est de savoir s'il y a une relation transactionnelle. Si les Américains veulent maintenant que les Ukrainiens, via les Européens, payent pour avoir ces munitions, ou s'ils ont décidé de ne plus fournir d'armement. Ça, on ne sait pas. On attend de voir. Il n'est pas impossible, en fait, que les Américains disent « Bon, maintenant, vous passez commande, comme n'importe quel client, pour avoir des missiles Patriotes ou des obus. On verra dans les prochains jours ce que dit Washington, mais personne n'a la réponse ce matin.
En tout cas, cette décision, elle intervient au moment où, plus que jamais, la Russie envoie des drones sur l'Ukraine. Je crois qu'il y a eu, rien que le mois dernier, je parle sous votre contrôle, Franck Alexandre, 5000 drones russes envoyés sur le territoire ukrainien.
Absolument, les drones Shahed qui permettent en fait de créer une espèce de nuée au-dessus des villes ukrainiennes, ce qui permet aux forces, aux VKS russes, de faire passer leurs missiles balistiques pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Mais on voit qu'il y a une accélération, une pression russe extrêmement forte pour tenter de faire plier dans les prochains mois l'Ukraine. En effet, Moscou n'a pas renoncé à ses buts de guerre. Leur ambition, c'est vraiment de mettre la main sur l'ensemble du territoire ukrainien.
Madame, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, tout à fait. Merci pour les éclaircissements.
C'est normal, on est là pour ça, on vous répond en direct tous les matins. Remerciez surtout Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI. Et Banam, continuez à nous écouter sur YouTube. YouTube, c'est la radio, mais c'est aussi la vidéo. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs en images en ce moment même, en direct, 8h17, en temps universel. On continue à parler de la guerre en Ukraine avec d'autres questions. Bonjour Ali.
Bonjour Anne Gomez, comment vous allez ?
Très bien, et vous-même ?
Je vais très bien.
Bon, merci de votre engouement et de le faire partager aux auditeurs de RFI. Ali, vous avez des questions, on vous écoute.
Zelensky a signé un décret pour se retirer de la convention interdisant les mines antipersonnelles. Comment expliquer cette décision ? Quelles peuvent en être les conséquences ?
Alors, les mines antipersonnelles, je le rappelle, ce sont ces petits engins explosifs qui sont conçus pour être enterrés ou dissimulés dans le sol et qui peuvent provoquer de très graves blessures, voire tuer. Bonjour Xenia Zornoklei.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste spécialisée pour la rédaction ukrainienne de RFI. Ali le rappelait à l'instant, il y a eu cette décision prise il y a quelques jours par le président Zelensky de marquer une rupture majeure avec les engagements internationaux pris par l'Ukraine, puisque le pays se retire donc officiellement de la Convention d'Ottawa qui interdit l'usage, la production, le stockage et la transmission de mines antipersonnelles. Comment expliquer une telle décision ?
Alors, c'est d'abord une réponse à une guerre où plus aucune règle n'est respectée. L'Ukraine, depuis 2005, suivait à la lettre la Convention d'Ottawa. Elle avait détruit ses stocks, renoncé à l'usage de ses armes et participé activement aux opérations de déminage. Mais tout ça s'est heurté à une réalité très dure. Et depuis 2014, la Russie utilise massivement des mines antipersonnelles sur le sol ukrainien, sans aucune contrainte, puisque Moscou n'a jamais signé cette convention. Et avec l'invasion de 2022, la situation a empiré. Les régions entières sont aujourd'hui minées et se vont sans distinction, ce qui crée un vrai déséquilibre militaire.
Donc le président Zelensky estime désormais que cette convention n'a plus de sens ?
Alors, ça a eu du sens en temps de paix ou dans un contexte plus stable. Mais aujourd'hui, il y a un vrai obstacle dans cette guerre, c'est son intensité. Où c'est la survie même du pays qui est en jeu. Donc l'argument, c'est de dire que les règles de la guerre ne peuvent fonctionner que si tout le monde les respecte. Et dans le cas précis, ce n'est pas clairement le cas.
Est-ce que ce retrait ne risque pas tout de même d'isoler l'Ukraine sur la scène internationale ?
Alors pas forcément. Il faut déjà rappeler que plusieurs grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde ou encore le Pakistan n'ont jamais signé cette convention.
Oui, l'Ukraine n'est pas un cas isolé.
Non, tout à fait. C'est pas un cas isolé. Et surtout depuis 2024, il y a certains pays européens limitrophes de la Russie, comme la Pologne par exemple, les pays baltes ou la Finlande qui ont aussi commencé à se poser cette question, est-ce que nous on n'arrête pas notre participation à cette convention ? Donc l'argument est très simple, face à une menace directe, la priorité c'est la sécurité nationale pas de désengagement pris dans un contexte complètement différent. Donc ce retrait de l'Ukraine s'inscrit dans une dynamique plus large et surtout liée au retour d'une grande guerre en Europe. Kyiv dit d'ailleurs rester attaché aux principes humanitaires, mais Kyiv estime qu'elle ne peut plus être la seule à respecter les règles alors que l'adversaire ne les applique pas du tout.
Ali nous demandait quelles peuvent être les conséquences de cette décision prise par le président Zelensky. Il y a des conséquences déjà, j'imagine, militaires.
Oui, tout à fait. D'un point de vue militaire, ça veut dire que l'Ukraine pourra désormais reproduire les mines antipersonnelles dans son arsenal, les stocker, les appliquer, surtout pour défendre certaines zones sensibles du front, là où les Russes pénètrent, où les Russes envoient par exemple ses équipes la nuit. Donc en fait, ça va être utilisé sur la ligne de front, ça ne va pas être utilisé massivement. Donc oui, il y a des conséquences militaires.
Et des conséquences aussi humanitaires, je le disais en préambule. Ces mines peuvent provoquer de graves blessures, elles peuvent même tuer.
Tout à fait. Une mine ne fait pas la différence entre un soldat et un civil. Et on sait très bien qu'à peu près 80% des victimes, ce sont toujours des civils. On pense aussi à qu'est-ce qu'on va faire après la guerre, comment on va déminer les territoires pour tout ce qui est l'agriculture, nettoyer les champs, les villes. Donc en fait, oui, il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais c'est vrai que dans le contexte de la guerre actuelle, c'est important pour l'Ukraine d'équilibrer les forces avec la Russie, d'avoir quelque chose en plus et de se sentir plus forte.
Ouais. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Ali? Êtes-vous satisfait des explications? Très bien.
Oui, très bien.
Bon, merci beaucoup. Bonne journée à Cotonou. Merci Xenia Zornoclay et je renvoie les auditeurs qui ont peut-être pris vos explications en cours à l'application RFI Pure Radio où vous pouvez évidemment retrouver toutes les réponses de la rédaction aux questions des auditeurs de RFI. 10h21 à Paris. Yacouba réagit sur YouTube. Il nous dit que le signal est parfait depuis Ségou au Mali. Malgré la suspension de RFI, nous parvenons à vous écouter sur YouTube. Bonne journée à tous. Voilà, on reste en contact. Tout à l'heure, on avait Banam Alomé. Maintenant, cet auditeur qui nous écrit donc de Ségou au Mali. On repasse au standard. 33 9 693 693 70. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue et merci de nous appeler de Yaoundé au Cameroun. Vous avez des questions sur le bras de fer qui s'éternise entre Elon Musk et Donald Trump.
En effet.
Ah, on vous écoute.
J'ai une question concernant les deux. Hein.
Oui. Allez-y, Pascal, on vous écoute.
Le président américain a menacé maintenant.
Que se passe-t-il? Avez-vous un petit souci, Pascal, avez-vous un... Oui, il ne m'entend pas, Pascal. Allez-y, reprenez, pardon.
Oui, je vous entends.
Bah, nous aussi, mais j'ai comme l'impression que que vous êtes un peu mal à l'aise, donc allez-y, posez votre question.
Non, je ne suis pas mal à l'aise.
Bon, alors, quelle est votre question? Bon, visiblement, il y a un problème, Pascal. Il y a un problème.
Les tensions entre le milliardaire Elon Musk et le président Donald Trump.
Oui.
Les deux semblent avoir fait la paix, mais il y a encore de nouveau des tensions entre les deux. Mmh. Et Donald Trump menace d'expulser Elon Musk pour l'Afrique du Sud.
Oui.
En a-t-il le droit?
Ah, a-t-il le droit d'expulser Elon Musk? Bonne question. En tout cas, il est américain, hein, Elon Musk. Il a été naturalisé américain il y a maintenant une vingtaine d'années. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy.
Oui, bonjour.
Excusez-nous, on a eu un petit souci avec Pascal, on ne savait pas s'il avait un petit problème, mais en tout cas, il a fini par poser sa question. Vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Bon, Pascal disait, on pensait que les deux hommes avaient fait la paix. On voit bien que ce n'est pas le cas. Le ton est même monté ces derniers jours. Pascal nous demandait, que se passe-t-il? Comment expliquer ces nouvelles tensions? C'est toujours la même chose. C'est toujours à cause du projet de loi budgétaire de Donald Trump qui est débattu en ce moment même à la Chambre des représentants.
Oui, on a deux logiques là qui s'affrontent et deux égos. Donc d'un côté, Musk a effectivement critiqué le projet de loi budgétaire qui divise d'ailleurs les républicains et qui prévoit des dépenses colossales et une augmentation forte de la dette.
Ouais.
Et donc il faut se souvenir que donc Elon Musk, hein, il faisait partie de ce département qui visait à couper toutes les dépenses, donc ça rentre totalement dans cette logique pour lui. Et puis il a été accusé par Donald Trump de n'y voir que son intérêt par rapport à sa voiture électrique, puisqu'il y a aussi des coupures, enfin des baisses de crédit d'impôt ou des éliminations de crédit d'impôt pour les tout ce qui est les énergies non fossiles et notamment les énergies électriques.
Voilà, donc Elon Musk est fermement opposé à cette loi qui est débattue en ce moment même, qui est d'ailleurs pour l'instant bloquée à la Chambre des représentants. On va suivre tout cela évidemment avec le correspondant permanent de RFI à Washington. Pour comprendre, il faut aller étape par étape pour comprendre pourquoi Donald Trump menace désormais de renvoyer Elon Musk vers son pays d'origine, l'Afrique du Sud. Il s'est passé quand même quelque chose d'assez surprenant cette semaine, Jérôme Viala-Godefroy, c'est qu'Elon Musk menace de faire tomber tous les républicains qui votent en faveur de cette loi, et pour y parvenir, il menace de créer son propre parti politique.
Oui, alors exactement. Alors c'est très difficile aux États-Unis de créer un parti politique au niveau national parce que il faut avoir un certain nombre de signatures dans chaque État, voilà. Et puis on a vraiment une domination du bipartisme aux États-Unis, donc c'est quelque chose de très compliqué. Et puis s'il doit effectivement s'opposer à tous les élus qui ont voté la loi, on regarde par exemple au Sénat, ça serait une majorité des sénateurs, quasiment tous, hein, les républicains. Et puis à la Chambre, ça fait beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'il va mettre en jeu vraiment ces menaces à exécution? Il faut voir. En plus, il joue le chaud et le froid, hein, Elon Musk, parce qu'il parle, il dit qu'il est tenté par l'escalade verbale, puis après, il opte pour un ton plus apaisé. Par exemple, il a salué le cessez-le-feu à Gaza de Trump, voilà, enfin, en disant que c'est de la grâce à Trump. Donc, il n'est pas très clair de savoir ce qui va vraiment se passer.
Ouais, en tout cas, il y a une échéance électorale importante. Dans un an et demi maintenant, ce sont les élections de mi-mandat, novembre 2026, et peut-être qu'Elon Musk profitera de l'occasion effectivement pour prendre sa revanche avec ce parti qu'il prévoit d'appeler le Parti américain. C'est le nom qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Venons-en donc à cette menace du président américain qui essaie de trouver les moyens de renvoyer Elon Musk en Afrique du Sud. Est-ce possible ?
Alors, normalement, non, c'était pas possible. Il a quand même, il faut noter qu'il a publié un décret en juin, le mois dernier, là, pour demander au département de la justice d'éventuellement dénaturaliser certaines personnes, ceux qui auraient été condamnés pour des crimes graves, par exemple, ou dans des cas de questions d'intérêt stratégique. Alors, c'est pas très clair, parce que finalement, ce qu'il faut, c'est que de toute façon, il y ait une procédure légale et juridique. Donc, Musk est citoyen américain depuis 2002. Et il faut vraiment, c'est vraiment des cas très rares. Alors, il faut que la personne ait fraudé, par exemple, dissimulé une condamnation pénale, menté délibérément sur son passé. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve apportée que Musk a fait ce genre de choses. Mais c'est une menace que fait Donald Trump. Il le fait d'ailleurs aussi contre le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani, qui a gagné les primaires. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est typique de Donald Trump et qu'on peut peut-être même remonter à son accusation que Barack Obama n'était pas un vrai Américain parce qu'il ne serait pas né Américain.
Ah, bon, bah écoutez, en tout cas, vos explications sont toujours pertinentes. Jérôme Viala-Godefroy, merci infiniment d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à Pascal. Je rappelle que vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Pascal, bonne journée à Yaoundé, au Cameroun. Merci de votre fidélité. Je m'excuse pour tous les auditeurs qui patientaient encore au standard, notamment Latif qui avait des questions à nous poser, mais ne vous inquiétez pas, on a vos coordonnées. On vous rappelle évidemment, si possible, dès demain pour vous puissiez poser vos questions à la rédaction de RFI. Je salue Timothée qui nous écrit de Dagmersellen, c'est en Suisse alémanique. Il nous suit sur la chaîne YouTube. Amadou Amirou nous dit que le signal est parfait à Kolokani au Mali. Il nous suit également sur YouTube. Adjeté est au Togo, à Lomé, et il nous dit je vous suis, je vous écoute sur YouTube. Merci à vous tous de votre fidélité et de votre confiance. Vous restez avec nous, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après pour vous donner la parole et débattre ensemble du projet de nouvelle constitution en Guinée. Le texte est désormais connu, 199 articles avec quelques nouveautés qui font débat, notamment la création d'un Sénat, la création d'une cour spéciale de justice ou encore le mandat présidentiel qui passe de 5 à 7 ans pour des raisons qui sont loin de convaincre un certain nombre d'entre vous. Vous souhaitez prendre la parole? Appelez-nous, on vous attend au standard 33 9 693 693 70. À tout de suite.